Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans cette nouvelle saison de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, on parle d'arabe, toujours, hein, Grace, on est d'accord,
toujours.
On parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rhum, de noir, et tout ça toujours sans complexe.
Donc c'est top de continuer à parler avec toi sur ce thème épineux et nécessaire.
C'est réciproque.
Des questions raciales en France, merci. On sait que c'est un œil de cyclone hein, pour beaucoup encore aujourd'hui. Et du coup, je suis aussi hyper contente de travailler avec l'équipe de Binge Audio pour que ces épisodes-là soient accessibles au plus grand nombre. Je crois que c'est important.
Bah oui, merci de nous avoir offert cet espace qui est assez unique pour parler de questions raciales en langue française. Donc aujourd'hui, dans cette saison 2, on va vous annoncer un petit peu ce dont on va parler de manière récurrente, de plein de choses. Mais on peut vous dire qu'on a très très envie de faire un focus sur la question de l'appropriation culturelle, qui est un concept qui n'est pas du tout aisé d'appréhender et qui fait couler beaucoup d'encre, de salive et même de rage, hein, je peux dire, en ce moment. Et donc, pour ce premier épisode de cette saison 2, on va mettre les deux pieds dedans avec la fabuleuse Maboula Soumaoro, que vous avez déjà entendue avec nous, et qui va nous expliquer, comme elle le fait si bien, ce qu'est l'appropriation culturelle.
Et ensuite, après avoir cerné un peu le concept, on va le décliner dans plusieurs thématiques au cours d'épisodes, parce qu'hélas, l'appropriation culturelle, elle prend des formes diverses et sévit dans à peu près tous les domaines de notre société. La mode, la bouffe, le lifestyle, la musique, enfin bon, tu vois, il n'y a pas vraiment de limite. Et parallèlement à ça, on va vous proposer des tutos pour lutter efficacement au quotidien contre le racisme et que le racisme devienne enfin extraordinaire comme il se doit, aux côtés d'épisodes plus intimes qu'on a appelé un peu des Kif Taras entre nous pour qu'on partage nos expériences personnelles.
Et on fera aussi, comme on a commencé à le faire la saison dernière, des Kif Taras Club pour débattre des actus et répondre à vos questions en direct. On aime beaucoup ce format qui nous permet de communiquer avec vous de manière immédiate ou aussi en différé parce que vous pouvez poser vos questions à l'avance sur nos réseaux. Et j'en profite aussi pour dire que nous avons fermé les commentaires sur YouTube parce qu'il y avait plein de haters et franchement on n'a pas le temps pour ça en fait.
Pour commencer sur les chapeaux de roue cette seconde saison, on va parler d'appropriation culturelle, une notion qui fait peur.
Qui fait pleurer
beaucoup de larmes là-dessus. Elle est floue et elle est utilisée à tort et à travers dans les débats publics à notre grand désespoir. Donc moi, je dirais que si le racisme, c'est un peu le hard power de la domination des uns sur les autres, l'appropriation, c'est le soft power. C'est-à-dire que c'est vachement plus insidieux, plus sournois et presque des fois invisible, tellement on a l'habitude d'être dedans. Et évidemment, totalement complémentaire avec le premier pour soustraire encore plus la dignité des personnes et leurs ressources. Hein, que... voilà. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir... notre chère Maboula Soumaoro.
Oui, donc tu as accepté de nous livrer ton expertise. Salut Maboula.
Salut Rokaya, salut Grace.
Avec
merci
sa voix,
de m'inviter à nouveau. Je suis très
grave.
Contente.
Elle a une voix de ouf.
Et très fière de participer à cette deuxième saison de Kif Taras.
Merci, merci beaucoup.
Vous n'avez pas pensé à changer de nom?
Non.
Kif ton ethnie.
Kif ton communautarisme.
Kif ton identité. Kif ton indigénisme.
Kif ton racialisme.
Kif ta non-francité.
C'est les spin-off, tu vois.
C'est ça, putain.
Kif ta laïcité.
Ça fait rêver. Alors, c'est la deuxième fois que tu... Je ne suis pas contre la laïcité, je veux que les choses soient claires.
Moi non plus. Est-ce qu'il faut le dire à l'antenne? Moi
oui.
Non plus. Je ne suis pas contre.
Je me désolidarise pas de ces termes.
Alors, c'est la deuxième fois que tu viens, Maboula. Merci beaucoup d'être notre invitée. Tu es chercheuse universitaire, maîtresse de conférences à l'université de Tours, docteur en civilisation du monde anglophone. Donc, tu es civilisationniste, c'est comme ça qu'on appelle ton activité universitaire. Tu as fondé le Black History Month en France. C'est le mois de l'histoire des Noirs, qui est une célébration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine, afrodescendante. Et tu nous prépares, tu nous concoctes un livre, enfin, qui sort très prochainement et qui aura pour titre et sous-titre « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire » et qui paraît aux éditions La Découverte. Est-ce que tu as une date de parution ?
Oui, c'est la première semaine de février. Ça sera pour mon anniversaire.
Très bien. Et pour le Black History Month américain aussi ?
Exactement. C'est pour le monde entier. Donc oui, le triangle et l'hexagone, je suis très très contente, très impatiente. Et on va parler de race dans tout ça et d'identité noire. Et ça va faire beaucoup de débats, j'imagine, puisque les débats ont déjà commencé et font rage.
Et tu viendras nous en parler ici, j'espère ?
Mais avec plaisir. Si vous m'invitez une troisième fois, je viendrai.
Bien sûr.
Reviendrai avec grand plaisir.
Alors, tu t'es déjà prêtée dans Kif Taras, notre petit rituel, on te demande si tu te situes et sur l'échiquier racial. Et tu nous as déjà fait part, j'ai fait un petit copier-coller, hein, de ta fierté d'être une femme noire. Est-ce que ça a changé depuis ?
Maintenant, j'ai peur. Non, rien n'a changé. Ma fierté d'être une femme noire, peut-être qu'il faudrait que j'explicite. J'aurais été une femme d'une autre couleur, j'aurais été fière aussi. Je suis moi-même, donc je n'ai pas d'autre choix que d'être fière de moi-même. Mais surtout, comme je m'inclus dans cette catégorie noire qui est une catégorie qui a été construite par l'histoire et qui a été construite de manière à être vraiment violemment même infériorisée, peut-être que là, le terme de fierté prend tout son sens. C'est comme si tu dis « je suis fière d'être noire », c'est comme si tu disais « je suis fière d'être pauvre », « je suis fière d'être, je sais pas, homosexuelle », « je suis fière d'être... » Enfin, toutes ces identités qui ne sont pas des identités de gagnant ou de dominant. Donc voilà, au-delà du, on va dire, de l'ego, voilà, qui pourrait être interprété comme une forme d'ego de se dire je suis fière d'être noire, je me dis qu'il y a quand même un petit côté de résistance de dire je suis noire et ce n'est pas une tare. Justement, c'est un peu ce que, quand on utilise, donc c'est le N-word aux États-Unis, ou enfin le terme nigga, parce qu'en France, on en a rien à faire de cette prise de pincette. Voilà, quand les gens disent de N-word, c'est pour dire, au début, c'était une insulte, et maintenant, je vais retourner le stigmate. Quand les poètes et les activistes et les écrivains, enfin tous les intellectuels de la négritude, ils savent très bien que nègre, à l'époque, on parle des années 30, la fin des années 30, que nègre n'est pas un terme, charrie de la valeur. Et ils disent, nous, on va en faire un terme valorisant. Voilà, donc moi, si je dis je suis fière d'être noire, c'est déjà que je mets un terme au tabou, au déni, au silence. Je serai un être humain, une citoyenne du monde, une Française, un fruit de l'universalisme, quelqu'un qui serait désincarné, alors que mon expérience, ma vie, puis ma formation professionnelle, qui est réelle, m'ont appris que j'étais noire. Et qu'au départ, ça devait être un problème, et pour moi, ça ne l'est pas du tout. Donc non, rien n'a changé depuis l'an dernier. Je suis toujours une femme noire, et je suis plein d'autres choses aussi. Je pourrais dire que je suis également française et ivoirienne, je pourrais dire que je suis djoula, je pourrais dire que je suis musulmane, je pourrais dire que... Enfin, il y a plein de choses. Je sais pas, que j'aime les pâtes, enfin voilà, on pourrait dire plein de choses.
Merci Maboula, c'est ce qu'on appelle le retournement du stigmate.
Et avant de demander à Maboula une définition de l'appropriation culturelle, je voudrais déjà, pour dissiper tous les malentendus que j'ai déjà lus et vus, faire un récap de tout ce que l'appropriation culturelle n'est pas. Déjà, comme ça on peut être sûr qu'on part sur des bonnes bases. Donc déjà, l'appropriation culturelle ce n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas procéder à des échanges culturels.
Hein. On a le droit.
Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas japonais, tu ne peux pas manger de sushi. Ça, ce n'est pas ce que ça veut dire, en vrai.
On aime les sushis.
Tu peux manger un sushi si tu n'es pas japonais. Voilà. Tu peux twerker en soirée.
Non, c'est important de le dire. Mais, hein.
Vois, parce que sinon après, on part dans des trucs où je suis pour, je suis contre.
Mais je suis pas d'accord, Grace, parce que les gens twerk déjà, donc je comprends même pas pourquoi il faut. Les gens twerk, pourquoi ils pleurent?
C'est ça. C'est,
ouais. Je comprends pas. Tu sais, comme si. Non, mais je vois ce que t'es en train de faire. Mais les gens mangent déjà des sushis, twerk, enfin, alors qu'est-ce qu'ils veulent?
Eh ben, ils veulent aussi faire les sushis et te les vendre, tu vois.
Ah. Et, leur et les rebaptiser en faisant comme s'ils les avaient inventés. Ça, c'est un autre délire.
Ce sont eux les maîtres du sushi authentique.
Voilà. Exactement. D'accord. Voilà, ils ont sublimé la recette du sushi.
Exactement.
Elle est meilleure que l'original.
Ils l'ont amélioré. Et d'ailleurs, le sushi, pour qu'il soit vrai, il ne faut plus qu'il soit japonais.
Voilà. En fait, c'est ça l'appropriation culturelle. Merci beaucoup, Mabula.
C'est un parfait résumé, merci.
Mais voilà, donc. Et ce n'est pas non plus. Dès qu'on lit des choses, c'est l'hypersensibilité des gens, la censure. Alors, on va parler de ça après, mais vraiment, la censure. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Du coup, l'appropriation culturelle, c'est ces notions qui remuent tout ça. Toutes ces choses sont complètement mélangées. Et voilà. Donc, dis-nous, s'il te plaît, Mabula.
Mais alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut demander aux Blancs qui ont des dreads pourquoi ils font ça?
Non, mais. Je me désolidarise de cette déclaration. Est-ce que... J'ai assez de problèmes comme
ça. On peut poser la question Non, mais.
Mais moi, je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Au titre, ma légitimité sera ma thèse de doctorat.
Exactement, c'est pour ça que je pose la question. Elle n'est pas seulement esthétique.
Notamment sur le rastafarisme.
Ah ouais, ok.
Alors, c'est une question piège pour moi. Merci encore pour cette invitation, mais c'est une question piège parce que je me sens pas spécialiste de cette question de l'appropriation culturelle. Et c'est vrai que parfois, je suis assez excédée de débats que je trouve polluants. Voilà, j'ai l'impression que, évidemment, il est important d'en parler, mais que d'un autre côté, on en parle et toujours de manière légère. Et voilà, et je me sens pas, on va dire, la plus légitime à parler scientifiquement de la question de l'appropriation culturelle. Mais en ayant réfléchi à votre thématique d'aujourd'hui, je me suis dit que, tout simplement, que, à mes yeux, l'appropriation culturelle, c'est une escroquerie, en fait. C'est une escroquerie. La question de l'appropriation culturelle, à mes yeux, pose une autre question qui est celle de l'égalité. Et, enfin, deux questions même, l'égalité et l'inégalité dans les échanges. Les échanges ont lieu, les échanges ont cours, évidemment, les échanges culturels, là, c'est deux dont on parle actuellement, mais c'est sur quel terme se font ces échanges. Et comme, voilà, si on prend l'exemple de la, je sais pas, des sushis, je me dis, c'est pas seulement une question de... je sais pas, est-ce que des Blancs ont le droit de faire des sushis, de les vendre et de dire qu'ils ont amélioré les sushis ou deviennent les maîtres? Je ne sais pas quel est le rapport des Chinois de France dans les sushis. Enfin, on n'en a rien à faire. Est-ce qu'on se souvient que les sushis viennent du Japon? On peut très bien avoir des Chinois qui font des sushis en France. On en a un à faire parce que ce sont des Asiatiques. Donc, il y a cette question de... c'est des Asiatiques. Enfin, c'est un truc comme ça. Mais après, il y a cette... on va dire une sorte de cannibalisme. Il y a cette on peut trouver des synonymes à l'appropriation. Il y a cette... On prend, on transforme prédation, et on dit que, prédation. Et on dit que c'est nous. Et c'est, pour moi, c'est un peu du colonialisme. C'est exactement ça, le colonialisme. J'arrive chez toi, je dis que je suis chez moi et je renomme les choses, je les transforme et je les améliore. Il y a toujours cette question d'amélioration. On pourrait parler, je sais pas, de la mode du wax en ce moment, mais qui est plus compliquée qu'elle ne paraît, parce que le wax en lui-même était déjà fabriqué en Europe. Voilà, qu'il y a des motifs et des tissus, des fabrications de tissus plus traditionnellement africains qui ont disparu. Ou qui tendent à disparaître à cause de la domination du wax. Mais d'un autre côté, il y a eu l'appropriation du wax par les Africains eux-mêmes, qui fait que quand maintenant, il y a des gens non-africains qui se réapproprient... Enfin, c'est cette histoire d'échange, elle est compliquée, parce que les échanges entre êtres humains et entre sociétés sont permanents. Mais je pense que la question fondamentale, c'est la question de l'égalité et de l'inégalité.
Et la question du rapport de force aussi, c'est-à-dire qui est où, c'est-à-dire que quand tu échanges avec quelqu'un qui ne dispose pas du même pouvoir que toi...
Oui.
Tu sais que c'est pas un vrai échange, en fait. C'est que t'es en capacité de prendre et d'imposer, alors que l'autre ne peut qu'accepter les termes d'un contrat qui n'est pas
exactement
égalitaire.
Et toi-même, tu vas faire fructifier, comment dire, cet apport culturel qui t'a été fait dans des conditions plus ou moins, enfin, indiscutables. Mm-hmm. Mais, par exemple, si on parle de la musique, par exemple, aux États-Unis, c'est un grand débat. La question de l'appropriation culturelle, le blues,
Elvis,
voilà, ouais. Voilà, qui bénéficie de gloire, qui bénéficie d'exposition, qui bénéficie, je sais pas moi, de conséquences financières. Ça aussi, c'est une vraie question.
Et de victoire de la musique.
Et de victoire de la musique. Oui, enfin, qui fait preuve d'ouverture d'esprit incroyable et qui s'est intéressé aux cultures du monde, ce qu'on a appelé les cultures du monde. Et puis d'un autre côté, les gens qui seraient coincés dans leur communauté et qui seraient trop étroits d'esprit. Enfin, alors que justement, parfois, la beauté ou ce qui a été apprécié, je ne sais pas, dans les musiques, dans les tissus, c'est l'ancrage dans cette communauté. L'adoration qu'on a pour les musiques afro-américaines, elles sont intimement liées à la puissance de ces musiques. Et la puissance et cette beauté de ces musiques, elle est intimement liée à la condition des afro-américains. Et là, ce n'est plus drôle. On repart dans l'esclavage, on repart dans la ségrégation, dans la violence. Et c'est ça qui a produit ce chant, ce son, cette musique, cette manière de s'exprimer. Donc quand on reprend tout ça, en le dissociant des conditions qui ont permis de le créer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on exploite? Et peut-être que ça va me permettre de faire un parallèle avec, au départ c'était une blague ce que disait Rokhaya sur les blancs à dreadlocks. Il y a des blancs qui portent des dreadlocks et qui ont le droit, enfin, et qui le font, mais dans le rastafarisme, la religion, c'est le corps noir. C'est être noir c'est le fondement de cette religion. C'est-à-dire qu'on parle de Jamaïcains en l'occurrence, donc qui sont devenus Jamaïcains parce qu'il y a eu la traite transatlantique, qui ont été construits comme inférieurs, comme esclaves, qui ont subi tous les stigmates qu'on a déjà mentionnés, et qui se rebellent, qui résistent et qui vont dire « noir, c'est beau », bien avant les années 60 aux États-Unis. « Noir, c'est beau », mais plus que beau, c'est divin. Notre Dieu aura notre couleur. On ne peut pas se libérer spirituellement, on ne peut pas se libérer même socialement, économiquement et tout ça, si on oublie la part spirituelle et religieuse. Donc nous allons inventer un Dieu noir, un Dieu qui sera à notre image. C'est ça. Donc à partir de là, si des gens peuvent, qui ne sont pas noirs, et on pourrait même dire, non, j'allais dire qu'ils ne sont pas jamaïcains, mais ce n'est pas vrai, qu'ils ne sont pas noirs, peuvent se dire, au nom du rastafarisme, je vais faire des locks, ils peuvent le faire. Mais le fondement du mouvement rastafari, c'est ça.
Moi, je trouve que c'est là, t'as balayé en l'espace de un grand paragraphe beaucoup de domaines dans lesquels il existe une appropriation, des appropriations culturelles, notamment. Enfin, là, tu parles de rastafarisme, donc le fait d'utiliser des coiffures qui sont associées à une culture, à une histoire. Et le problème dans l'appropriation culturelle, et tu l'expliques bien, c'est que les personnes qui se l'approprient en tire un bénéfice que les personnes qui l'ont inventé n'ont pas. Oui. Ça je veux dire. Oui, c'est-à-dire le blanc qui porte des dreadlocks au nom du rastafarisme et qui du coup embrasse les causes de tout ce que l'histoire des personnes qui noires qui ont créé le rastafarisme ou qui en héritent combattent, si c'est juste parce que c'est joli et qu'il écoute du reggae, c'est pas la même chose pour moi. C'est-à-dire que la personne qui écoute du reggae, qui écoute des dreads, et dès qu'il y a un problème de violence policière, il se dit bon, ça m'intéresse pas trop parce que moi dans le métro personne me contrôle, tu vois.
Oui.
C'est pas la même chose.
Non, mais,
que...
mais c'est ça, parce que il y a ce côté un peu bon, là on s'est lancé dans le mouvement rasta et il y a plein de gens qui sont devenus rasta et qui croient et qui s'allient à ces causes, et donc ça c'est une autre question. Mais dans ce que tu dis, c'est vrai que t'as raison, Grâce, il y a pour moi c'est la question de la dissociation. On peut pas se dire j'écoute du reggae et c'est cool et je suis fan de Bob Marley et il a, je sais pas, fait la promotion d'une sorte d'universalisme noir, blanc, ça ne compte pas. Et d'ailleurs lui-même était métisse. Non, oui, il était métisse, mais il a vécu avec les noirs. Enfin, c'est il a pas été élevé dans sa famille blanche. Il a été élevé avec des noirs et la culture qu'il a mise en avant, c'est une culture noire jamaïcaine. Et donc voilà, l'exemple de Bob Marley, c'est vraiment le plus pratique parce que c'est le plus connu. Mais le groupe, c'était Bob Marley and the Wailers. Au début, Bob Marley and the Wailing Wailers.
Ouais. Et ça veut dire
ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, c'est Bob Marley et les ceux qui font, en tout cas, qui imitent les lamentations. C'est to wail, c'est se lamenter. C'est soit le bruit d'une sirène ou soit pour un être humain, c'est se lamenter. Donc, on se lamente de quoi? Donc, il y a quelque chose d'un peu malsain. C'est comme si cette douleur originelle a produit une beauté telle qui est intimement liée à cette douleur et dont on fait fi. Et à un moment, Bob Marley, c'est cool. Ouais. Ah, c'est super. Il chante comme si, il danse comme ça, ouais. Il est coiffé comme ça. Alors que ce chant, cette danse, cette coiffure signifient des choses qui sont beaucoup moins fun. Donc, est-ce qu'on a envie d'être esclave? Est-ce qu'on a envie d'être, je sais pas, malheureux? Est-ce qu'on a envie d'être séparé par sa famille? Est-ce qu'on a envie d'être exploité? Est-ce qu'on a envie d'être ségrégué? Est-ce qu'on a envie d'être fouetté? Parce que c'est ça qui a donné, ce sont tous ces éléments qui ont donné, on va dire, la couleur à ces productions culturelles. Ou leur son. Leur teneur. Donc c'est, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. On demande juste à ce qu'ils réfléchissent un peu. Non seulement qu'ils réfléchissent et qu'ils écoutent. S'il y a d'autres personnes en face qui leur disent attention, et pas seulement dans une question de policer. C'est pas seulement de faire la police. Tu as le droit à pas. C'est pas seulement ça. Ne serait-ce que si on est tous des êtres humains, être à l'écoute, avoir cette sensibilité. Et de quoi on me parle? Et c'est vrai, je ne connais peut-être pas tout. Et après, une fois que je connais, je ferai mes choix. Et tout le monde a le droit de porter des logs, et tout le monde a le droit de porter du wax, là, en connaissance de cause. Là, il y a trop d'ignorance.
Bah, c'est le côté un peu supermarché, quoi, où tout le monde. Enfin, il y a des gens qui sont en position de se permettre de piocher un peu dans toutes les cultures sans avoir à se préoccuper de leur provenance et de leur signification, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit historique, etc. C'est juste de se dire, bah oui, on a le droit, évidemment, de s'exprimer culturellement comme on le veut, mais. Que si on a le luxe de pouvoir ignorer d'où ça vient, qu'on ait au moins la décence d'essayer de questionner ce luxe.
La décence et en plus de comprendre. Parce que là, pour revenir au wax aussi, c'est facile et enfin, je connais bien le wax, j'ai grandi dedans. Mais je me suis dit, avant que ça revienne à la mode récemment, qu'est-ce qui se passerait si moi je venais en wax et pas wax, on va dire pimpé, tu sais, si je veux dire
en boubou.
En boubou.
Eh ben, on dirait toi, tu serais pas civilisé, ce n'est pas approprié pour travailler.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche? Chez Binge Audio Edition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Moi, je sais que je peux répondre à la question parce que j'ai mis du wax dans une émission sur une chaîne info. Et j'ai vu donc, des gens qui étaient hyper énervés sur Twitter, mais vraiment vénères, comme si j'avais vraiment manqué de respect aux gens. Et il y a quelqu'un qui a dit « on dirait une vendeuse de poissons de Casamance ». Et je me suis dit « mais là... l'insulte était tellement précise ».
Oui, parce que la Casamance en particulier.
La Casamance, faut connaître. Ouais, une vendeuse de poissons, c'est pas une vendeuse quelconque.
D'accord, mais c'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, le Sénégal, et qui sait très bien qu'en Casamance, on ne s'habille pas comme à Dakar. et que
mais tu sentais qu'il y avait vraiment un truc de... comment dire, il y avait, à la fois de manque de respect et vraiment de... Je trouve pas le terme exact, mais d'une position... Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si quand tu es dans un cercle, en fait, un cercle dominant de prestige, tu dois te conformer au code dominant.
Oui, peut-être que le mot que tu cherches, c'est le « on t'a mise à l'extérieur ».
Oui.
C'est la
non, non, et que de ma part, il y avait une subversion. Tu vois, c'était ça aussi.
Non, bien sûr, parce que si t'es dans ce cercle,
tu dois être dans
un cercle d'une telle façon. Et c'est pour ça que là, pour moi, l'image de la Casamance, elle est très parlante. Ouais. Ça a sa place en Casamance. Mais ici, on n'est pas en Casamance, t'as compris ?
Boulogne.
On n'est pas en Casamance.
Mais tu vois, et en même temps, si une collègue, une consoeur, tu vois, blanche, était venue avec un petit gilet, un petit blouson en wax, tout le monde aurait trouvé ça hyper cool.
Elle est trop ouverte d'esprit.
Hein. Ouverte d'esprit. Et elle connaît la Casamance.
Ah ouais,
il y a une différence entre connaître la Casamance et être.
Non, mais c'est vraiment ça l'appropriation culturelle. C'est le cœur du truc, c'est qu'il est détourné pour bénéficier à des personnes qui ne sont pas.
Au la Casamance, c'est une région du Sénégal. En fait. On en parle un peu en mode. Voilà.
Et je ne suis pas sénégalaise.
Je me rappelle si de. Vous vous rappelez de quand Voici avait fait un article sur un couple royal d'un pays d'Afrique, alors je sais plus duquel.
Ah,
c'était un couple royal
qui
était sur un tapis rouge, donc c'était un truc, je sais pas si c'était pas à Cannes ou un truc comme ça. Ou...
Qu'est-ce qu'ils faisaient
et
là
donc, déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient là, tu vois. Mais ils étaient habillés du coup en habit traditionnel. Et la journaliste avait dit, elle avait fait un commentaire très désobligeant du style, ils sont venus habillés, je sais pas quoi, enfin un truc.
Ouais, comme si t'avais bien n'importe comment, vraiment comme si.
Et l'année où Victoria Abril a été venue habillée en habit inspiré de mode africaine, alors je sais plus du tout, tu vois, mais et tout le monde avait dit waouh, c'est magnifique, c'est trop beau, vraiment elle est in, quoi, tu vois. Et c'est vraiment ça le détournement de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que les personnes dont c'est les traditions, dont c'est l'héritage culturel, on leur dit non mais attends, vous ressemblez à rien, civilisez-vous un petit peu là, habillez-vous comme les gens modernes. Et ceux qui dont c'est pas l'héritage peuvent l'utiliser, et on dit d'eux, on leur lance des lauriers. Donc c'est vraiment
la dissociation permanente, en fait. On veut quelque chose que tu as, mais on ne te veut pas toi. Et en plus, avec un regard porté sur les cultures et sur les traditions qui parfois est problématique, parce que parfois on va dire, c'est vraiment, je sais pas, je me souviens pas du tout de la tenue de Victoria Abril, mais ah oui, ça c'est une tenue traditionnelle, mais ça se trouve c'était déjà un mélange,
mais
parce qu'on a cette vision monolithique des traditions. Donc l'Afrique ancestrale, la Casamance ancestrale, et ils s'habillent comme ci, comme ça, alors que les choses ont évolué, puisque les gens évoluent. Si je porte du wax, c'est sûr que je ne porte pas du wax de la même façon que ma mère porte le wax, parce qu'on n'a pas le même âge et que c'est ma mère.
Enfin, oui, c'est ça. Mais tu vois, du coup, ça me fait penser, enfin, je reviens sur la question des locks, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Zendaya, la comédienne, elle était venue sur un red carpet avec des locks, et elle s'était fait défoncer. C'est-à-dire que, voilà, Zendaya, qui est métissée, donc métissée
avec
une ascendance afro, et ce qui est intéressant, c'est que sur elle, tout d'un coup, cette coiffure était apparue comme quelque chose de très négligé, et elle avait fait l'objet de commentaires, moi que j'estime raciste, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus, de la part d'une partie de la presse, quoi. Et c'était c'est
comme si Bette Ndiaye et son afro qui, enfin bon, bref, quand elle a été nommée, on a dénoncé, enfin dans les la dénonciation,
si Bette Ndiaye, la porte-parole du gouvernement,
de sa coiffure, apparaissait très clairement le fait que elle n'aurait pas respecté sa position, l'institution, qu'elle était négligée. C'est ça que ça voulait dire.
Alors que ces mêmes coiffures sur des personnes blanches ou en tout cas non noire, parce que blanche, je ne suis pas sûre que ce soit que limité aux personnes blanches, parce que type Kylie Jenner, tout de suite, c'est waouh, vous rappelez, il y a toute forme d'appropriation chez les
Kardashian. C'est une spécialité familiale.
La famille Kardashian,
indienne. Les baby hair.
Ouais.
Bon, donc les tresses.
Les cornrows aussi. En fait, ce que j'ai trouvé fou dans la famille Kardashian, je crois qu'on en a déjà parlé ici dans Kif Taras, je ne sais plus, mais c'est quand Kim Kardashian a fait ses cornrows, donc ses tresses, des tresses plaquées, et qu'elle a carrément fait des tutos YouTube pour expliquer aux gens comment on faisait des tresses plaquées. Et je me dis, mais attends, c'est un savoir ancestral qui vient des afro-descendants, et que tu te dis qu'en fait, pour un savoir équivalent, tu as des personnes qui vont être sanctionnées. C'est-à-dire qu'en France, qui ne vont pas avoir de travail, parce que les coiffeuses afro, en fait, leur compétence n'est pas reconnue par le diplôme qui est délivré.
Le diplôme universel.
Le CAP, ouais, c'est ça. Le CAP de l'éducation nationale française ne sanctionne pas le fait de savoir coiffer des cheveux afro. Donc, tu as des femmes qui, en France, ont cette compétence-là. Certaines sont sans papier, exploitées dans les châteaux, notamment les salons de coiffure de Château d'Eau, etc. Donc, elles sont complètement stigmatisées par ce savoir. Et Kim Kardashian a fait de la thune sur ça, en plus en renommant la coiffure par son nom et en faisant comme si elle l'avait inventée. Et c'est ça l'appropriation, c'est vraiment la captation le fait de ne pas reconnaître l'endroit où on a
la source.
C'est ça, la source de son savoir, et le fait de générer des revenus. Enfin,
c'est une escroquerie.
Exactement.
Mais c'est vraiment. Et comme tu dis, tout ça, Maboula, on fait ce qu'on veut, mais moi, du coup, comme je fais ce que je veux, je m'interdis pas de porter du wax, mais si je portais du wax, j'irais pas l'acheter chez Zara, tu vois. J'irais l'acheter chez une femme ou un homme qui fait quelque chose que j'estime a une connexion avec cet héritage historique, culturel, etc.
Économique,
qui est passé. Parce que là, on parlait tout à l'heure des sushis et de la cuisine japonaise, et je pense que c'est un très bon exemple, je pense, de contre. Enfin, parce que non, pour moi, l'appropriation culturelle est complètement indissociable de la domination, tu l'as dit. Et la culture japonaise en France, ce n'est pas une culture dominée.
Non.
C'est une culture qui, parmi toutes les cultures asiatiques qui ont pu, qui sont importées en France, c'est une culture dominante. Et donc, moi, les personnes chinoises qui font de la cuisine japonaise, on appelle ça d'ailleurs les chiponais, il y a même un terme qui a été créé pour ça. Pour moi, c'est pas de l'appropriation culturelle. Parce que il n'y a pas de question de domination. Les Japonais n'ont pas été étriqués de leur savoir-faire par les Chinois. Mm-hmm. Les Chinois font des sushis à 10 balles. Ça mangeait un menu de sushis à 10 balles. Tu peux être sûr que c'est un Chinois qui l'a fait. Hein, parce que ça n'a pas empêché les Japonais en France, aujourd'hui encore, de vendre des menus à 200 balles. Parce que c'est leur culture, parce que c'est leur savoir-faire, et que évidemment, c'est à eux que reviennent les lauriers de cette culture. Et je trouve ça tout à fait normal que ce soit le cas. Et que du coup, les Chinois qui le font parce que c'est à la mode, parce qu'ils bénéficient d'une mode, d'une trend, et ben qu'ils le fassent pour survivre. Et demain, si c'est le thaï qui sera à la mode, ils feront du thaï. Et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rendre aux gens. Donc si je veux manger des sushis, je peux aussi manger le choix.
Ouais, tu manges des sushis.
Moi, ce qui m'intéressait dans cet exemple avec les sushis, quand je disais que des Chinois faisaient des sushis en France, moi ce qui m'intéressait plutôt, c'était le regard qu'on portait sur les sushis. C'est-à-dire que ça compte même pas que ce soit des Chinois ou des Japonais, on n'en a rien à faire. Tant que c'est des gens... Si c'est des Sénégalais, pour revenir à Rokhaya Diallo, qui font des sushis, on va dire, ouais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont droit, est-ce qu'ils ont pas, ou c'est des faux sushis. Mais là, moi, ce qui m'intéressait, c'était le flou par rapport aux identités associées à un certain produit. Et ça nous sort un peu de la question unique de l'appropriation culturelle, mais on en a, tant que ça a l'air asiatique. Tant que ça a l'air asiatique, et je trouve que c'est important aussi cette représentation.
Mais je pense que les gens se posent pas souvent la question de est-ce que ça a l'air asiatique, parce qu'en vrai, Sushi Shop et Planète Sushi, qui sont à peu près les tenants du business parisien, en tout cas, je parle pas de la France, mais on sait pas qui c'est. Enfin, moi, je sais qui c'est derrière, mais ils sont pas asiatiques, tu vois. Enfin, et on se demande, on regarde pas les gens qui a derrière le comptoir parce que c'est moderne et que c'est rose et que t'as l'impression que ça a été approprié.
Non, la sortie de la culture japonaise.
Ouais, c'est devenu universel, voilà. On n'a même plus besoin de japonais, ni même de chinois. Parce que ça appartient au monde entier.
Ça s'appelle l'intégration.
Non, c'est devenu français.
Assimilation.
C'est l'assimilation.
Mais ouais. du coup, c'est intéressant parce que du coup, tu évoques les thématiques qu'on va explorer de manière... enfin plus attentive dans chaque dans plusieurs émissions qui vont revenir au cours de l'année. T'avais relevé une tribune qu'avait faite Maboula dans Libération.
Oui, tout à fait, absolument. Alors tu avais fait une tribune. Enfin, c'est une interview que tu as faite, Maboula, dans Libé. Tous coupables d'appropriation culturelle, c'était un article. Et tu dis, enfin, en tout cas, c'est tes propos qui sont rapportés. Pour Maboula Soumaoro, le métissage doit se faire sur la base de l'égalité. L'emprunt sans gêne, sans compréhension et sans compensation est indécent. Donc le moins que ces créateurs puissent faire, c'est d'accepter la critique et arrêter de faire comme si l'art était déconnecté des enjeux de société. C'était à propos des créateurs accusés d'appropriation culturelle et plus précisément sur le créateur d'Exhibit B, une installation artistique rappelant les os humains par Brett Bailey, un créateur sud-africain blanc. Donc, je pense que c'est encore d'actualité, ouais, ça.
Ouais, c'est... Oui, non, et puis je pense que j'assume, parce que c'est trop facile. On a cité plein d'exemples précédemment, mais c'est trop facile de dire je prends tel élément de telle culture et une culture qui est traditionnellement dévalorisée. Et tout d'un coup, puisque je porte mon regard, et donc le monde doit être interrogé, quel est ce regard ? Donc un certain regard va élever cette culture en œuvre d'art célébrée. Alors que des gens qui pratiquent cette culture au quotidien sont marginalisés, enfin stigmatisés. C'est ça la question. Et d'un coup d'un seul, on va organiser donc même pour la haute couture des défilés de mode dans des lieux prestigieux et on va être couvert par la presse et c'est magnifique. Et au quotidien, ce n'est pas magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette dichotomie ? Qu'est-ce que c'est que cette opposition incessante ? Et encore une fois, qui la question, c'est celle du bénéfice. Voilà, qui en bénéficie ?
En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on ne se pose pas forcément la question à l'envers. C'est-à-dire qu'on a aussi des domaines culturels qui sont considérés comme étant le cœur de la culture dominante et comme étant son incarnation la plus prestigieuse. Et la question que j'ai envie de poser, j'ai envie d'avoir votre regard là-dessus, c'est est-ce que les gens qui sont, qui sont minoritaires peuvent être reconnus dans tout ce qui représente en fait ce qu'il y a de plus symbolique de la culture dominante. Tu vois, quand je pense, je pense à l'opéra, je pense au fait de parler latin, tu vois, des choses comme ça. Je pense notamment à... Je sais que j'ai une cousine, en fait, qui est prof de latin, de lettres classiques, et qui est prof de latin notamment, et elle est en dehors de Paris, et les parents, quand ils l'ont... Ma cousine est noire, c'est pas le cas de tous mes cousins, mais elle est noire, et tu vois, les parents, ils ont un peu halluciné, tu vois, quand ils l'ont vue, ils se sont dit, mais qu'est-ce que va leur apprendre, quoi. Tu vois, et du coup, il y a quelques parents, en fait, qui l'ont posé des questions, c'est comme si, en fait, l'appropriation culturelle pouvait marcher dans un sens, mais que dans l'autre, à partir du moment, même en étant français, quand tu portes ce qui est considéré comme le cœur de la culture classique légitime, tu peux jamais considérer comme étant parfaitement compétent.
Je vois ce que tu veux dire, mais ça fait encore c'est une énième preuve d'ignorance, parce que déjà ça dévoile la vision et la compréhension hyper racialisée de notre société. De se dire qu'une prof de latin, et justement, puisqu'elle maîtrise le cœur de la culture classique, que l'on considère comme blanche. Alors que si tu étudies les empires gréco-romains, il y avait déjà des noirs à l'époque. Donc, il y avait des gens qui parlaient latin à l'époque, ou grec. Enfin, je veux dire, la Méditerranée était en liaison constante avec l'Afrique. Enfin, Donc, ça veut dire que dans notre vision du passé, dans la vision de certaines personnes du passé, cette vision, elle est déjà blanche.
Elle est blanchie même.
Elle est, ouais. Voilà, elle est blanche, elle est blanchie, elle est comprise comme... mais c'est de l'ignorance, c'est de l'ignorance. Et après, je sais que grâce... Tu vas ajouter quelque chose, mais juste pour si on n'a pas le temps. On n'a pas parlé des musées, par exemple. Mm-hmm. Enfin, ça, en termes d'appropriation culturelle.
Ah oui.
C'est massif. Je pense qu'on peut parler de vol.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà, les gens peuvent chipoter sur la façon dont ont été acquises les œuvres qui sont exposées. En tout cas, qu'est-ce que le Louvre, dans son prestige, dans sa richesse, dans sa puissance, sans la présence de ses œuvres ? Et même si on balaie les façons, alors des fois ça a été acheté, pas acheté, volé, pillé, même si on fait fi de ces questions-là, qu'est-ce que le Louvre, le Louvre bénéficie, mais de manière extrêmement puissante de ces objets-là qui ne lui appartiennent pas.
Et là, on peut renvoyer au rapport qui a été fait par Félouine Sarr et Bénédicte Savoie sur la restitution des œuvres africaines qui sont présentes en masse dans les musées français. Quoi.
On aimerait beaucoup faire un épisode, je pense que ça mérite un épisode
complet.
À lui tout seul.
Mais c'est la richesse de ce musée comme la richesse de... Sur quoi dépendent les richesses de ces musées ou de ces pays ou de quoi dépendent ?
Et même dans notre quotidien, c'est-à-dire que tu dis que seraient les musées français, moi j'ai envie de dire que serait le petit déjeuner français sans la captation de biens qui ont été acquis dans les... d'épices, de nourriture qui ont été acquis dans le cadre colonial.
Parce qu'en fait, tu mangerais du rutabaga,
c'est ça. Il n'y aurait pas de café, il n'y aurait pas de thé, il n'y aurait pas de chocolat chaud. Donc déjà, là, en termes de boissons chaudes, ce serait mort. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est-à-dire, on a complètement intégré des choses qui nous sont parvenues du fait colonial et qui sont intégrées à des pratiques quotidiennes et qui sont, et c'est pas mal, ça fait partie de notre vie, mais c'est pas quelque chose qui a toujours été là, c'est ça.
Qui va dans un seul sens.
Exactement.
Quand il vient dans l'enrichissement du patrimoine des pays occidentaux qui sont à l'œuvre dans cette colonisation, tout va bien. On parle d'échanges culturels d'ouverture d'esprit économique et culturel. Par contre, quand ça va dans l'autre sens,
il n'y a pas que les épices qui viennent et qu'il y a des êtres humains et des corps qui viennent.
Ah non, il faut s'arrêter aux frontières, monsieur. C'est pas possible.
C'est la libre circulation des biens, mais pas des personnes.
Les Français FA, ça peut venir, il n'y a pas de problème.
Donc il y aurait énormément de choses à dire encore sur l'appropriation, mais je pense qu'il faut qu'on termine. Et aussi, je voulais dire, Maboula, pour finir là-dessus, c'est que comme quand on dénonce le racisme, lorsqu'on dénonce l'appropriation culturelle, on est toujours face aux mêmes arguments. La liberté de création, la censure, on nous dit « Ah, mais on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, il faut laisser son prochain. » Le politiquement correct. C'est-à-dire qu'on se heurte encore et toujours aux mêmes arguments des personnes qui n'ont plus d'arguments, qui sont à court là, parce que...
Ils sont en boucle là.
Et il y a une panique vraiment assez générale. Là, je pense que c'est... Je pense qu'il y a eu des siècles d'appropriation culturelle en toute tranquillité.
Voilà, au calme.
Et donc là, du coup, ça s'agite parce qu'on se dit « Putain, c'est bon, ça y est, commence à en parler. »
Ils ont remarqué. Ouais.
C'est la fin d'un
monde. Ah bon, c'était à toi ? Mais t'es sûre ?
Tu me l'avais pas prêté ?
Pourtant, je l'avais découvert.
Qu'est-ce que tu voulais... C'était quoi le... Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit ou comment on
continue.
On continuera.
Qu'est-ce qu'on fait, ouais.
Non, qu'est-ce qu'on... Pour moi, je trouve ça d'une arrogance. L'appel à le politiquement correct, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. À chaque fois, moi, je suis la première étonnée. Je me dis, mais d'où... Où est-ce que vous êtes freiné dans quoi ?
Mais surtout quand tu dis quand tu dis on peut plus rien dire à la télé.
Voilà.
A priori personne t'empêche de parler. Quoi, tu vois ?
Qu'est-ce qu'on vous empêche de faire ? Qu'est-ce qu'on vous empêche de faire ? Et à chaque fois se dire c'est de la censure. Mais moi j'ai la puissance d'une censure. J'ai la puissance d'un État. Qu'est-ce que vous voulez ? En fait il déplore la fin de la tranquillité. Il déplore la fin de l'impunité. Et même si on en est encore au stade symbolique, hein, même pas encore économique ou factuel. Là, c'est juste que, je sais pas, pour être un peu vulgaire, je revendique le droit de faire ma crasse en toute tranquillité. Tu vois, je veux faire ma crasse en toute tranquillité. Et je ne supporte même pas le fait qu'on puisse me dire non, mais arrête un peu ou nettoie un peu. Je veux tout. C'est ça l'arrogance. Et c'est ça, il y en a qui parleraient même de l'arrogance coloniale originelle. C'est ça, j'ai tous les droits.
Et dis-moi merci.
J'ai tous les droits,
j'ai
fais ce que je veux. Et je ne veux pas être dérangée. Et peut-être que nous, on dérange.
Exactement, c'est une excellente conclusion.
On dérange.
On dérange.
Tant mieux.
On dérange avec Yves Tarras, avec le livre de Maboula qui est à venir pour février 2020, qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup, Maboula.
La Découverte.
Non,
c'était anciennement les éditions Maspero. C'était les éditions Maspero. Mais ça s'appelle La Découverte. Peut-être la vraie, une découverte qui ne sera pas aussi toxique. classique que celle qu'on a vécue historiquement. Merci
beaucoup Maboula, et faites-nous part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener sur l'appropriation culturelle. Alors, on n'a pas pu tout dire, mais tout ce qu'on voulait, il y avait trop de choses à dire, ouais. Mais on fera des épisodes beaucoup plus spécifiques sur des thèmes qu'on a évoqués là, la bouffe, la mode, les coiffures peut-être, tu vois, ouais. Et surtout les biens culturels des musées de France. donc si vous aussi vous vous posez des questions, écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter, Facebook et avec le hashtag kiftaras.
Kiftaras est un podcast de Binge Audio réalisé par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.